mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles du monde pour le mardi 10 décembre. Des nouvelles du monde, il y en a. On va commencer par essayer de faire un petit tour de trois infos qu'on peut donner sur la situation actuelle en Syrie. On se gardera bien de toutes les spéculations géopolitiques des divers camps et de l'avenir, mais on va essayer déjà de voir ce qui se passe au jour le jour. On va parler encore de pollution de l'eau potable, et oui, ça devient une habitude, avec des nouvelles révélations qui concernent cette fois la présence de tritium dans l'eau potable de nombreuses rivières de France, due bien évidemment à l'industrie nucléaire. Industrie nucléaire qui attend son renouveau du côté de Marcoule dans le Gard. On ira aussi s'intéresser à une pleine page qui a été réalisée dans les colonnes de Midi Libre. Et qu'est-ce que je vous ai encore un petit peu? Des nouvelles des opposants à l'autoroute de Toulouse-Castres, la 69, avec le tribunal administratif qui essaie de repousser le rendu de qu'il avait déjà fait, plutôt favorable donc à l'arrêt de ce chantier. Et je vous emmènerai enfin aux États-Unis avec la dernière nouvelle qui a défrayé la chronique et les réseaux sociaux, le meurtre d'un PDG d'une grande entreprise d'assurance. On part tout d'abord du côté donc du Moyen-Orient et de la Syrie, avec déjà cette info qui concerne les bombardements par l'armée israélienne de bases en Syrie, de bases militaires. Pas moins de 250 raids aériens ont été lancés alors que le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Sharaa, qui est à la tête des groupes rebelles islamistes qui ont libéré le pays, négocie la transition du pouvoir à Damas avec les derniers membres du parti Baas, qui était donc jusque-là sous l'égide de Bachar el-Assad. Et c'est donc Israël qui mène de nombreux bombardements en Syrie en déclarant avoir détruit les principaux sites militaires du pays. C'est aussi ce qu'a confirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui relaye beaucoup d'informations sur le terrain. Selon cette organisation, donc, qui prend ses infos sur de très nombreuses sources à travers la Syrie, Israël a donc entre autres bombardé des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions, ainsi que des centres de recherche militaires dans plusieurs régions, dont celle de Damas. En attaquant une unité de défense aérienne près du grand port de Latakié, dans le nord-ouest du pays, des navires de la marine syrienne ont également été endommagés par l'armée israélienne. Ces raids visent la destruction des armes restantes dans les entrepôts et les unités militaires qui étaient contrôlées par les forces de l'ancien régime. Ancien régime allié de l'Iran et du Hezbollah libanais, c'est ce qu'estime en tout cas l'OSDH dans son communiqué. L'armée israélienne n'avait pas fait de commentaire dans l'immédiat, puisque hier elle avait quand même confirmé avoir détruit au cours des derniers jours des armes chimiques en Syrie pour éviter, selon elle, qu'elles ne tombent aux mains des rebelles. Les troupes israéliennes, par ailleurs, ont avancé au sein de la zone tampon du Golan syrien. C'est un territoire qui est sous contrôle de l'ONU et un territoire qui sépare la Syrie de l'Israël. Un territoire censé être démilitarisé en vertu d'un accord qui date de 1974. Cette action constitue donc une violation de l'accord de désengagement de 1974. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole de l'ONU. Cette incursion de l'armée israélienne a d'ailleurs provoqué de vives réactions de la part des autres puissances régionales. Une action militaire qui confirme la violation continue par Israël des règles du droit international et sa détermination à saboter les chances de la Syrie de restaurer sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale. Ça, ce sont les mots du ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué d'aujourd'hui. Et il est rappelé aussi dans cet article du Huffington Post qu'Israël a déjà conquis une partie de ce plateau du Golan, un plateau montagneux. C'était en 1967. Israël avait déjà pris un bout de territoire à la Syrie. Et qu'aujourd'hui, ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse, à Jérusalem, aujourd'hui tout le monde comprend l'importance capitale de notre présence sur le Golan, et non au pied du Golan. Le Golan fera partie de l'État d'Israël pour l'éternité, a d'ailleurs il déclaré hier. Si on s'intéresse au nord du territoire de la Syrie, et notamment la partie qui était contrôlée par les Kurdes jusque-là, c'est ce que certains appelaient une oasis au sein du chaos. Bon, les termes sont un peu exagérés, parce que la vie n'est quand même pas paradisiaque, j'imagine. En tout cas, c'est ce que titrait le magazine Sciences Humaines en novembre 2021. Il parlait donc du nord-ouest syrien et donc de ce qu'on appelait le Rojava. Pour combien de temps encore, alors que la Syrie est en plein bouleversement, donc depuis la chute de Bachar el-Assad, de grandes interrogations se posent sur la suite et sur le comportement de ce nouveau régime qui va se mettre en place. Au nord du pays, donc, ce territoire un peu particulier tente de se maintenir dans la tempête, c'est ce qu'on appelait le Rojava, une région rebelle donc sous administration kurde, une région autonome qui est parvenue à se développer depuis 10 ans. Et la chute donc de Bachar el-Assad de ces derniers jours, provoquée par le groupe HTS, menace de changer la donne. Car les milices de l'ASN, le bras armé de la Turquie, se sont jointes au groupe rebelle pour donc faire tomber le pouvoir en place. Et ceux-ci ne sont, pour le moins qu'on puisse dire, pas favorables au mouvement kurde. A noter quand même que, d'après les observateurs, en tout cas, HTS donc, semble vouloir calmer le jeu avec justement cette opposition pour éviter de créer un deuxième front. En plus des attaques des milices, le Rojava va toujours devoir continuer à résister à celle de la Turquie, qui profite de chaque instabilité pour assaillir notamment les infrastructures de ce territoire autonome. Rien que hier, lundi 9 décembre, 11 civils qui faisaient partie d'une même famille, dont 6 enfants, ont été tués dans une frappe de drone turc qui visait une maison dans un village du Rojava. C'est ce qu'indiquait toujours l'OSDH. La veille, au moins 26 combattants ont été tués alors que des factions syriennes soutenues par la Turquie ont lancé une offensive dans la région de Manbij, qui est également tenue par les FDS, les forces démocratiques syriennes, donc qui sont les forces armées qui administrent le Rojava. Et enfin, le retrait des troupes russes de la zone de Kobané pourrait, selon Boris James, qui est un chercheur spécialisé qui est à l'université Paul Valéry de Montpellier, cela pourrait ouvrir une voie à la Turquie, alors que cette zone est particulièrement habitée par des Kurdes. Donc ça, ce sont pour les craintes. Mais d'un autre côté, donc on est toujours sur quelques incertitudes, la chute du régime d'Assad pourrait aussi être bénéfique au Rojava, car qui dit effondrement dit notamment retrait des forces du régime. Et ainsi, les Kurdes ont l'occasion de reprendre des territoires abandonnés par l'armée syrienne. Maintenant donc que les cartes ont été rebattues, reste à savoir quel pion les milices donc, qui ont pris le pouvoir et la Turquie vont avancer. Celle-ci pourrait tenter d'intensifier ses actions contre la zone et essayer de prendre la ville de Manbij, qui est déjà en proie aux attaques, explique toujours le même chercheur Boris James. Ce qui faciliterait grandement la tâche à la Turquie pour cela, ce serait le feu vert du président élu Donald Trump pour notamment envoyer ses troupes au sol sans passer par les milices sur place. Bref, ce n'est pas terminé de ce côté-là. Et on termine ce petit tour des premières répercussions de la chute donc de Bachar el-Assad et de son régime avec en Europe le sort des réfugiés syriens qui est remis en question, et ça n'a pas tardé. Hein. Les réfugiés syriens qui célébraient dans une ambiance d'euphorie la chute de du tyran à cause duquel ils avaient souvent quitté leur pays ou à cause duquel des membres de leur famille avaient été emprisonnés ou tués. Donc ils fêtaient tout cela le dimanche 8 décembre et certains se sont réveillés le lendemain avec la gueule de bois. En effet, la France, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et la Grèce ont annoncé ce lundi matin suspendre l'examen des demandes d'asile provenant de Syrie. Le Royaume-Uni et la Suisse ont pris le pas dans la suite de la journée. Et carrément, du côté de l'Autriche, elle est allée jusqu'à annoncer préparer un programme de rapatriement et d'expulsion des Syriens qui avaient déjà obtenu l'asile. Ça ne chôme pas. Au sein de l'Union européenne, la législation reste du ressort de chaque pays. Pour la France, environ 700 demandes d'asile de Syriens sont actuellement en cours d'examen et quelques 45 000 ressortissants syriens bénéficient donc de l'asile en France. C'est une destination assez peu prisée des Syriens depuis le début de la guerre qui date de 2011, puisque c'est en effet l'Allemagne, avec ses près de 1 million de Syriens accueillis, qui s'était distingué lors de la grande vague migratoire de 2015-2016, justement par une politique d'accueil très large. Et bien cette fois-ci, l'Allemagne a devancé la France de quelques heures. Hier matin, Berlin a annoncé son intention de geler l'examen des demandes d'asile en cours jusqu'à ce que la situation soit plus claire. C'est ce qu'a indiqué le ministère allemand de l'Intérieur.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. J'ai demandé un petit café, c'est pour ça.
Un petit café avec pas trop d'eau. L'eau potable de près de 10 millions de Français est touchée par une pollution radioactive qui provient des centrales nucléaires. C'est Mediapart qui publiait aujourd'hui une carte inédite ainsi que des analyses d'urine venant conforter les chiffres annoncés. Un nouveau record donc, ce cap des 10 millions d'habitants qui sont impactés par de l'eau radioactive est sur le point d'être franchi. C'est bien un record car une étude qui date de 2019 menée par le Canard Enchaîné avait déjà révélé la présence de tritium dans l'eau potable qui était consommée par à l'époque 6,4 millions de personnes. Le tritium, c'est un produit radioactif qui est issu des centrales nucléaires et cette fois c'est donc Mediapart qui révèle que l'eau du robinet est largement contaminée à ce fameux tritium qui est la forme radioactive de l'hydrogène. L'ensemble des réacteurs nucléaires français et une large partie des réacteurs nucléaires mondiaux génèrent en effet ce sous-produit involontaire, le tritium. Dans la réaction nucléaire, les neutrons rencontrent des atomes de bore et ça forme donc le tritium. Ce bore est lui utilisé pour contrôler la réaction nucléaire afin que celle-ci ne s'emballe pas et que ça reste une centrale et pas une bombe. Le tritium est donc un sous-produit connu et inévitable. Le tritium est en général rejeté au moment jugé le plus opportun par EDF, et ce, dans les cours d'eau qui bordent les centrales nucléaires, afin de l'éliminer, afin de le dissoudre. Ce n'est pas donc une contamination accidentelle, mais bien organisée. Et c'est EDF qui doit juger du moment le plus opportun pour faire ces fameux, ce rejet du tritium dans les eaux. EDF est surveillé par l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, assure de son côté que les rejets sont soumis à une réglementation très stricte qui encadre les conditions sous lesquelles ces rejets peuvent être effectués. Néanmoins, les motifs pour lesquels on autorise ces rejets sont ceux de la nécessité de maintenir la production, et ce en évacuant le tritium quand les zones de rétention sont pleines. Ce n'est pas des considérations liées à la santé ou à l'écologie, c'est pleinement lié au fonctionnement même de l'usine. Ce sont donc des choix économiques qui conduisent à ces rejets, alors que des bâches de rétention supplémentaires pourraient par exemple être installées. En France, ce sont 5 cours d'eau, la Garonne, la Loire, le Rhône, la Seine et la Vienne qui sont toutes bordées de centrales nucléaires et ces cours d'eau contiennent ainsi donc tous du tritium rejeté par EDF. L'ensemble des stations d'eau potable qui sont situées en aval de ces centrales peuvent donc puiser de l'eau qui contient du tritium et mécaniquement ce sont les villes de Nantes, de Paris, de Lyon et d'Agen ainsi que de multiples autres et des petites communes qui sont concernées. Si on regarde le département de la Loire-Atlantique, qui, pas de chance, se situe à l'embouchure de la Loire et qui donc subit les rejets de plusieurs centrales en amont, se retrouve numéro 1 des départements en nombre de communes concernées. Si on regarde la carte, on voit d'ailleurs que le bassin de Saint-Nazaire, qui est par ailleurs pollué par l'industrie chimique, connaît de son côté un pic de cancer. Tout cela signifie aussi donc qu'en cas d'accident plus grave d'une centrale, croisons les doigts que non, mais voilà, si ça devait arriver et que de l'eau lourdement chargée en particules radioactives devait se déverser dans ces fleuves, eh bien cette même part de la population française ne pourra tout simplement plus consommer d'eau potable sans s'empoisonner. Et si ce tritium est rejeté dans telle quantité dans les cours d'eau, et ce donc de manière légale, c'est parce qu'il est considéré comme inoffensif. Un argument que certains déclarent triplement faux. Tout d'abord parce qu'il a été récemment démontré que le tritium, notamment quand il irradie depuis l'intérieur du corps, pouvait augmenter des risques cancérigènes, physiologiques, notamment réduire la fertilité et la longévité. En deux, l'ensemble des pollutions qui sont générées par les industries créent des effets de cocktail. On n'a pas étudié l'impact des polluants ensemble. Et on peut imaginer que l'impact d'un polluant sur le corps humain seul ne révèle pas l'ensemble de ses conséquences. Vous combinez ça avec des pesticides de chez Monsanto, des petits additifs Nestlé et le tritium de chez EDF. Tout ça ensemble, ça doit faire un cocktail plutôt sympa. Et enfin, eh bien justement parce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, fixe le seuil de potabilité de l'eau, donc le seuil au-dessus duquel on ne peut pas boire d'eau, il est fixé à 10 000 becquerels par litre pour le tritium. C'est un niveau qui est fixé en considérant le risque qui serait acceptable pour une personne à 300 fois le risque des cancérigènes chimiques. On se base donc sur les concentrations de cancérigènes chimiques connues pour donner une dose d'un cancérigène qui est lui radioactif. Ça reviendrait un petit peu comme si on mesurait le risque de l'acide chlorhydrique en considérant la quantité qu'il faut pour dissoudre un corps. Et avec cette logique, eh ben, si on dilue un petit peu d'acide dans de l'eau, ça serait OK pour se laver les yeux, par exemple. Petite métaphore développée par Contre-Attaque, qui fait un résumé donc, de l'article. L'eau potable, donc, vous l'aurez compris, qui est consommée quotidiennement en France, contient donc des matières radioactives qui échappent pour l'instant à tout contrôle. Et dans les années 80 déjà, des analyses avaient révélé la présence de plutonium dans l'eau de la Loire. Le plutonium, lui, est une matière très très fortement radioactive.
Allez, rembolle tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin.
Et pendant ce temps-là, on peut lire notamment en pleine page dans Midi Libre que ce 10 décembre, le président Macron devait normalement convoquer un nouveau conseil politique nucléaire français. Ce rendez-vous devrait être reporté suite à la motion de censure qui a entraîné la démission du gouvernement. Ce rendez-vous est malgré tout très attendu en région où on espère des annonces pour l'avenir du site gardois de Marcoule. Marcoule est passé notamment à côté du réacteur nucléaire de 4e génération, c'était le projet Astrid, il n'a finalement pas eu lieu. Il espère bien être choisi pour accueillir le prototype de SMR. Ce sont les réacteurs modulaires qui incarnent la nouvelle ère de la filière. Mais à chaque annonce, il semble y avoir un nouveau rebondissement. En février dernier, cette attribution semblait acquise. Il se disait donc dans cette partie du Gard qu'à l'issue d'un conseil de politique nucléaire, le président de la République allait annoncer que le site de Marcoule était choisi pour accueillir le prototype de SMR français. Les SMR, ce sont des petits réacteurs nucléaires qui sont souvent présentés comme l'avenir de la filière française, avec en jeu un potentiel local de 2000 à 4000 emplois sur plusieurs décennies et toutes les retombées allant avec. Je vous laisse savourer les jeux de mots de l'auteur. Quelques mois plus tard, en tout cas en juillet, eh bien EDF rétro-pédalait en annonçant revoir le design de New Ward, c'était le nom justement de ce projet de SMR, un projet qui devait révolutionner le marché européen de l'énergie. Bon, une manière de, en tout cas de rétro-pédaler. Et par exemple, en off, il se dit par certains élus que c'était plutôt le président de la République qui avait été un petit peu échaudé, notamment par les 10 ans de retard et les 30 milliards de dépassements du chantier de l'EPR, qui avait donc demandé à EDF de se calmer et de se concentrer sur les dossiers prioritaires. Donc par exemple, l'EPR, donc les mini-réacteurs, on verrait ça plus tard. À savoir qu'à Marcoule, il n'y a plus à proprement parler de centrales nucléaires aujourd'hui. Les 6 réacteurs ont été progressivement arrêtés, et le dernier en 2010, il s'appelait Phoenix. De fait, ce site gardois est devenu plutôt un territoire d'expérimentation, notamment pour le démantèlement des installations nucléaires et la gestion de leurs déchets. C'est un endroit où on stocke beaucoup, beaucoup de déchets. Dans les années 90, d'ailleurs, Marcoule s'était porté candidat pour y réaliser un laboratoire souterrain de stockage des déchets radioactifs. Mais vous le savez, c'est le site de Bure en Lorraine qui a été choisi. Et enfin, donc je vous en ai parlé, en 2019, ce territoire devait peut-être accueillir le projet Astrid, un prototype de réacteur de 4e génération, des réacteurs à neutrons rapides au sodium, qui permettait notamment de réduire les déchets nucléaires. Eh bien, le projet a pour l'instant été reporté à la deuxième moitié du siècle par l'État. Donc plusieurs déceptions de suite pour le site de Marcoule. Et on apprend donc toujours dans les colonnes de Midi Libre que les acteurs locaux n'attendent plus grand-chose de l'État et misent aujourd'hui plutôt sur le secteur privé. C'est par exemple ce que dit Jean-Yves Chapelet, le maire de Bagnols-sur-Cèze, un ancien ingénieur au CEA. Il dit même carrément qu'à ses yeux, le coup d'arrêt d'EDF, c'est une vraie chance pour nous. Cela laisse le champ libre au secteur privé. Et nombre de ces entreprises s'intéressent à Marcoule, où on a du savoir-faire, du foncier disponible et de l'acceptabilité du territoire, ce qui n'est pas neutre. Souligne-t-on que la population locale est plutôt confiante envers le nucléaire. Bagnols-sur-Cèze, une ville de 18 000 habitants, et ce maire a grandi dans les années 60, notamment avec le site nucléaire voisin de Marcoule. Jean-Christophe Rey, lui, est président de l'agglomération du Gard rodanien, et il confirme qu'il travaille sur un dossier de séduction, dit-il, pour faire la démonstration auprès de ces start-up que nous avons ici de nombreux atouts. À commencer donc par les terrains qui avaient déjà été réservés pour le projet Astrid, des terrains en jonction directe avec le site de Marcoule, et donc dans ce cas, un dossier d'extension serait plus simple à mener qu'un dossier de création. Des facilités, notamment administratives. Alors ces fameuses start-up qui seraient intéressées par venir travailler sur les SMR du côté de Marcoule, elles sont 11 environ sur les starting blocks. Une des plus en vue s'appelle New Cleo. Et elle a passé le cap notamment du premier appel à projet France 2030. C'est l'appel à projet lancé par Emmanuel Macron pour imaginer le nucléaire de demain. Eh bien, la start-up New Cleo serait sur le point justement d'acter l'acquisition d'un emplacement privilégié dans ce gare rhodanien, un an notamment après avoir installé un bureau d'études à Avignon. Tout cela dans l'objectif de designer, comme on dit, la future usine de fabrication de combustible destinée à ces fameux petits réacteurs. Ce serait le projet idéal pour Marcoul, car New Cleo prévoit d'implanter d'ici 2030 cette usine à côté de son démonstrateur, un mini-réacteur de nouvelle génération, de type Astrid, qui doit produire de l'électricité, soit le savoir-faire local, quand ses concurrents les mieux placés, donc d'autres startups qui s'appellent Jimmy et Calogena, travaillent, elles, sur des réacteurs qui doivent fournir une chaleur décarbonée pour l'industrie ou des réseaux urbains. Ce sont les commentaires d'un connaisseur du dossier, donc, qui analyse les différentes candidatures. Voilà, donc tout l'avenir est misé vers les startups. Les SMR, quand même, je vous en parlais un petit peu, ça veut dire Small Modular Reactor. Ce n'est pas petit réacteur modulaire, hein. C'est pas de la SMR. C'est un acronyme qui pourrait cacher l'avenir de la filière nucléaire, en tout cas souhaité par le président. Ce sont des petits réacteurs donc de faible puissance, entre 20 et 300 mégawatts électriques par unité. Hein, environ aujourd'hui, les gros réacteurs normaux, c'est 900, entre 900 et 1650 mégawatts. Donc on est au moins 3 fois plus petit, voire 8 fois plus petit. Donc plus petit et moins puissant, il serait surtout moins coûteux à fabriquer. Les différentes parties pourraient en effet être fabriquées en série, en usine, et ensuite assemblées sur place. Une forme de modularité qui viendrait compléter l'offre nucléaire de forte puissance. Et puis on pourrait en mettre un petit peu partout. Il pourrait avoir de nouveaux usages, au-delà de fournir d'électricité, comme par exemple la production de chaleur. C'est ce qu'on lit sur le site de Orano. Cette perspective intéresse d'ailleurs aussi une industrie en quête de décarbonation, notamment la sidérurgie, la pétrochimie ou la métallurgie. Ouais, la pétrochimie... Ah, ça y est, j'ai compris ce que vous voulez dire. La perspective intéresse aussi une industrie en quête de décarbonation, puisque toutes ces industries, justement, vont continuer, mais avec moins de pétrole, et par exemple, même aussi du dessalement d'eau de mer. D'ailleurs, on y prend que même Google en a commandé pour alimenter ses data centers. Si c'est pas magnifique, ce nouveau monde. En tout cas, ces nouvelles générations de réacteurs rencontrent un fort engouement au niveau mondial. On recense plus de 80 projets avec des technologies plus ou moins avancées, hein, que ce soit aux États-Unis, la Chine, la Russie ou en Europe. Et en France, donc, c'était Macron qui avait annoncé en 2022 des investissements à hauteur d'1 milliard d'euros alloués à leur développement. Donc une partie pour le projet EDF et l'autre pour les startups justement qui se sont lancées dans cette quête. Les premiers SMR, s'ils sont réalisés, sont attendus pour 2030, voire 2035, du côté de la France.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On part du côté de Toulouse avec une décision du tribunal administratif qui a annoncé la réouverture de l'instruction pour le dossier de l'A69. C'était hier. Les opposants attendaient une annulation de l'autoroute. Ils crient donc au scandale. Hein, ça n'a pas été des scènes de joie attendues. Après une interminable attente de 15 jours, les opposants à l'autoroute A69 espéraient en effet que la justice annule enfin l'autorisation environnementale des travaux. Donc c'était censé être annoncé hier. Le 25 novembre dernier, en effet, la rapporteuse publique avait rendu un rapport clair et argumenté justement sur l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur pour ce dossier, et elle préconisait donc l'annulation de l'autorisation pour le chantier de la 69. Eh bien, hier vers 13h, le tribunal administratif de Toulouse annonçait la réouverture de l'instruction, donc ni une autorisation ni une annulation, hein, mais une nouvelle instruction, donc un report, qui donnera lieu à une autre audience d'ici quelques mois. La présidente du tribunal justifie sa décision par le fait que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne ont transmis il y a 5 jours un nouvel élément, qui nécessite, selon elle, de rouvrir l'instruction. C'est une manœuvre assez maligne, visiblement, de la part des préfectures. Cet élément, c'est un engagement ministériel qui s'engage donc à baisser de 33% le prix des péages de l'autoroute A69. Alors, justement, c'est une note en délibéré que le journal Reporter a pu consulter. Sauf que là, il était question de juger l'autorisation environnementale de l'autoroute et pas son prix. Hein. Donc, ce fait nouveau n'est pas lié à l'autorisation environnementale. Le prix du péage n'a même pas été relevé, d'ailleurs, par la rapporteuse publique dans son rapport, où elle demandait l'annulation. De qui se moque-t-on ? S'interroge franchement Gilles Garic, qui fait partie de l'association La Voie est libre, qui milite donc contre ce chantier d'autoroute. Vu la conjoncture économique actuelle, continue-t-il, ça semble très surprenant que l'État s'engage à faire baisser le prix des péages. C'est un coût énorme, plusieurs millions d'euros, et on sait que cette autoroute ne sera jamais rentable. Tout cela remet également en question l'équilibre financier du contrat de concession que l'État a signé avec Atosca. Cette réouverture de l'instruction, en plus, elle ne permet pas aux requérants de faire appel. Et entre-temps, les travaux de l'autoroute A69 devraient pouvoir se poursuivre jusqu'à la prochaine audience, qui, elle, très certainement, ne se tiendra pas avant février 2025. Puisqu'il y a un doute sérieux sur l'autorisation environnementale et l'absence d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour justifier les travaux, le minimum serait d'arrêter le chantier le temps de l'instruction. Nous sommes dans une situation ubuesque et on a l'impression qu'ils cherchent à gagner du temps pour finir le chantier. Nous allons réfléchir à des actions en justice d'ici quelques jours. Voilà, ce sont les mots, les commentaires donc à chaud de porte-parole de La Voix est libre. D'ailleurs, la députée insoumise Anne Stangbach-Terrenor, qui était présente aussi lors de la conférence de presse, a condamné la décision en appelant ça un scandale et un nouveau passage en force de l'État qui veut poursuivre les travaux malgré l'avis de la rapporteuse publique. Dans la soirée d'hier, des rassemblements spontanés ont eu lieu à Toulouse ou à Foix en Ariège pour dénoncer la décision. Et malgré leur grande déception, les militants croient toujours à l'annulation du projet. Ils espèrent d'ici là obtenir un moratoire et l'arrêt du chantier.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, je vous emmène aux États-Unis et sur Internet aussi, c'est un petit peu pareil des fois, pour terminer ces nouvelles du monde autour de l'affaire du meurtre de Brian Thompson. Si vous n'avez pas suivi, ça agite un peu la toile et les médias. Un homme de 26 ans a été arrêté hier en Pennsylvanie dans l'enquête justement sur l'assassinat de Brian Thompson, qui était le patron d'un géant de l'assurance santé américaine, le CEO, comme on dit en américain. Luigi Mangione, c'est le nom donc du suspect, qui est maintenant reconnu d'ailleurs principal suspect. Il a été arrêté hier dans un McDonald's, dans la petite ville de Altoona, on est dans le nord-est des États-Unis. Il est donc accusé d'avoir assassiné en pleine rue, mercredi dernier à New York, le patron de la plus grosse compagnie américaine d'assurance santé. La compagnie s'appelle United Healthcare, UHC, et il aura abattu donc de plusieurs balles dans le dos son PDG, alors que celui-ci s'apprêtait à rentrer à 7h du matin dans l'hôtel Hilton à Manhattan. Il allait participer à une conférence destinée aux investisseurs de son groupe, un groupe qui se porte très bien, je vous en dirai 2-3 mots après. Donc, pour ce qui est de l'affaire, un individu cagoulé qu'on voit sur les caméras de surveillance a tiré dessus donc, à plusieurs reprises avant de s'enfuir à vélo. Le patron de la société est mort ensuite de ses blessures à l'hôpital. C'est donc finalement la police de la ville d'Altoona en Pennsylvanie, donc à 500 km à l'ouest de New York, qui a arrêté ce jeune homme, puisqu'il a 26 ans, Luigi Mangione, pour possession d'armes à feu tout d'abord, et maintenant il est accusé du meurtre. L'homme a été signalé par un témoin dans le McDonald's et il avait d'ailleurs présenté une fausse carte d'identité, la même genre que celle qu'il avait utilisée pour s'enregistrer dans un hôtel new-yorkais la nuit précédant le crime. Il avait visiblement planqué une dizaine de jours dans la grande ville pour attendre sa victime. Luigi Mangione, donc c'est son nom, il a 26 ans, c'est un ingénieur diplômé d'une grande université et fils de bonne famille, très bonne famille même. Depuis qu'il a été arrêté et que son nom a été dévoilé, les réseaux sociaux de ce jeune homme sont entrés en ébullition. C'est aussi le signe d'un emballement du public américain pour cette affaire, dans ce pays où les assurances santé privées sont régulièrement accusées de s'enrichir sur le dos des patients. Et là, ça va même un petit peu plus loin dans ce cas particulier. En tout cas, pour ce qui est des réseaux sociaux, il a par exemple un profil Instagram. Il avait 2000 abonnés vers 14h. Le soir, il passait à 180 000 abonnés vers 18h. Sur X aussi, pareil, une explosion. Et les gens sont plutôt enthousiastes des actions donc, de ce jeune homme. On peut lire par exemple « Il ferait mieux de te laisser libre, tu es un héros ». Ce profil Instagram est pour l'instant toujours accessible et donc on peut lire de nombreux commentaires dessus. Et ça renvoie notamment aux spéculations que ce jeune homme aurait pu agir pour se venger d'un contentieux avec cette assurance santé. Pour ce qui est des preuves, les policiers ont retrouvé une arme à feu en kit, qu'il aurait pu avoir fabriquée avec une imprimante 3D et un silencieux. Un document manuscrit de 3 pages aussi évoquant son hostilité à l'encontre des entreprises américaines a également été saisi par la police. Donc je vous le disais, c'est un jeune homme diplômé, hein, fils d'une grande famille de la région de Baltimore, qui possède notamment de grands établissements, dont plusieurs country clubs. Son cousin est élu républicain à la chambre basse locale de cet état de l'Est des États-Unis, donc on est au sud de New York, donc plutôt une très bonne famille et bien en place. Selon des informations des médias américains, sur les balles, les cartouches qu'il aurait tirées, dont certaines se sont rayées, que la police a pu retrouver par terre, des mots avaient été inscrits dessus, notamment « delay, deny, defend », donc « retard, refus et déposé ». Ce sont des termes utilisés quand les demandes d'indemnisation de soins sont rejetées par les compagnies d'assurance. Donc il avait inscrit ça sur les douilles retrouvées sur les lieux du crime. La victime, donc je vous l'ai dit, c'était le patron de United Healthcare, il s'appelait Brian Thompson. Une enquête a mis en lumière l'année dernière l'usage de l'intelligence artificielle par sa société pour pouvoir valider ou refuser des traitements de santé. Bon, dans les faits, plutôt refuser, puisque cette IA rejetait de manière draconienne les demandes d'indemnisation des patients. Hein. Donc un procès avait été très médiatisé il y a un an sur cette affaire. L'IA, donc l'algorithme, s'appelait NH Predict, et il aurait, ce qu'avait lancé l'affaire, refusé d'indemniser 2 patients âgés, alors que leur demande notamment de pouvoir accéder à un EHPAD avait été préalablement approuvée par leur médecin. Et c'est comme justement l'assurance a refusé, c'est là que se sont rendus compte que c'était un algorithme qui avait traité ces dossiers, une pratique d'ailleurs de plus en plus courante aux États-Unis, mais où cette société, United Healthcare, tient de loin le haut du pavé. D'après le site StatNews, qui est spécialisé dans l'actualité de la santé, cette entreprise, donc United Healthcare, savait que son algorithme avait un taux d'erreur extrêmement élevé, on est à 80% d'erreur, et elle avait donc sciemment rejeté les demandes de ses patients, tout en sachant que, de manière générale, seul un faible pourcentage des dossiers rejetés allait ensuite déposer un recours pour tenter d'annuler la décision de l'assureur. On est sur un pourcentage de 0,2% de recours, donc c'est vraiment gagnant-gagnant comme stratégie. Le procès concernant cette affaire est toujours en cours, hein, donc ça n'a pas encore été approuvé par le tribunal, mais néanmoins ça a été très médiatisé, et la colère du public face à la propension de l'assureur et de manière plus générale des assurances maladies à rejeter leur demande d'indemnisation n'a fait qu'augmenter. En 2023, l'entreprise United Healthcare, donc c'est le plus gros fournisseur privé d'assurance maladie, qu'avec 50 millions de clients, a engrangé en plus 16,5 milliards de dollars en bénéfices. D'ailleurs, de nombreuses publications saluaient l'action de Brian Thompson dans l'augmentation des bénéfices par cette entreprise. Hein, ils sont passés de 10 quasiment à 16 milliards en un an. La rémunération d'ailleurs de ce patron s'est élevée à plus de 10 millions de dollars cette année-là. Et la même année, donc, l'entreprise avait refusé le tiers des réclamations qui lui ont été soumises. C'est le double par rapport à la moyenne nationale. On est plutôt sur un taux de rejet de 16%. Ainsi, comme le résume le magazine mensuel The American Prospect, environ 50 millions de clients du monopole médical régnant aux États-Unis pourraient avoir une raison de se venger du PDG d'United Healthcare. Ce qui explique donc la vague de soutien qui entoure l'acte de ce jeune homme qui, malgré tout, risque de finir ses jours en prison. Luigi Mangione, donc, il est officiellement poursuivi pour le meurtre de Brian Thompson, c'est ce qu'on lisait ce matin. Et pour terminer la petite histoire, le fameux McDonald's de la ville d'Altoona, où ce tueur a été arrêté, est actuellement en train de se faire bombarder de critiques. Les avis Google sur McDo sont sur le point de le faire fermer, car personne n'aime les balances. C'est ce qu'on peut lire sur Internet, où les mèmes vont bon train, et les publications aussi sur l'identité, et le fait que le tueur est un très beau sourire, notamment, emballe tout le net. Cette affaire a donc beaucoup de répercussions sur les réseaux sociaux et l'Internet des Américains. On s'y donne à cœur joie pour célébrer ce que certains appellent un héros. Une référence à V pour Vendetta ou Joker pour les œuvres de fiction récentes sont souvent évoquées. Et oui, les États-Unis, ce pays où la fiction semble de plus en plus influencer la réalité. Voilà, c'est là-dessus que se terminent les nouvelles du monde. Je vous donne rendez-vous jeudi pour d'autres actualités fantasmagoriques, et on repart en musique tranquillou. Ça sera Bombino qui arrive après le jingle.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.